commencé à graver dans 20 secondes.
Puisque je ne peux pas m'arracher à l'objectivité qui m'écrase, ni à la subjectivité qui m'exile, puisqu'il ne m'est pas permis ni de m'élever jusqu'à l'être, ni de tomber dans le néant, il faut que j'écoute, il faut que je regarde autour de moi plus que jamais le monde, mon semblable, mon frère.
On vous a parlé de la stratosphère, on vous a parlé de la ionosphère, les principes physiques de la radio. Heureusement, bénéficie d'une couche ionisée. Eh bien, quel est le mot qui convient pour cette parole mondiale, cette parole cosmique? Eh bien, c'est la logosphère. Et nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure, avec moi.
Sur Canal Sud 92.2. C'est la petite fabrique sonore, de nuit ou pas. Alors ce soir, une rediffusion d'une vieille émission de septembre 2013. C'était une émission qui avait été faite autour d'un article rebond tiré d'un Libération de juillet 2013, écrit par une journaliste Cristina Faleras, une journaliste de Catalogne, je crois. L'article s'appelait « J'écris d'en bas ». Alors, pour recontextualiser la chose, il fallait se rendre compte qu'en 2013, c'était encore en pleine crise des subprimes. On en était à une situation en Espagne particulièrement catastrophique. Alors, je suppose que ça ne s'est pas beaucoup arrangé aujourd'hui. C'est masqué par tout un tas de fatras, d'informations en tout genre, mais je crois que, effectivement, l'Espagne est un pays où ça va assez mal. En tout cas pour ceux d'en bas, ceux d'en haut, les premiers de cordée ont toujours pas de problème, ni en France, ni ailleurs. Alors, avec toutes les macroneries qui nous entourent, il semblait important de revenir sur cet article qui était particulièrement intéressant au niveau de la thématique, c'est-à-dire du jour au lendemain, on peut se retrouver complètement hors du monde et dans une situation hyper complexe de précarité.
Le grand but historique de signer le Parti communiste, c'est de détruire le régime capitaliste.
Voilà, donc je vous laisse avec cette émission. Peut-être qu'elle détonne, ou peut-être qu'elle ne correspondra plus à l'actualité de l'Espagne d'aujourd'hui, mais de toute façon, elle correspond à certainement un autre pays. Et d'ailleurs, ça correspond à peu près à ce qu'on peut vivre en France dans certaines catégories de la population et dans la précarisation de tout un tas d'individus. Voilà, sur Canal Sud 92.2, la petite fabrique sonore. J'écris d'en bas. Bien sûr, il s'agirait de recontextualiser tout ça, peut-être de manière un peu plus précise. Mais bon, ce soir, c'était une rentrée de vacances. Enfin bon, s'il y en a encore qui prennent des vacances. Ah ouais, c'était une émission en dilettante, je n'avais rien de prêt, donc j'ai choisi cette émission. De toute façon, elle a au moins l'intérêt de nous faire écouter tout à fait en fin d'émission. Le Manhall de Greslick, un grand moment de musique pop américaine.
Content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Il fait froid. Il fait froid.
Il est des hasards qui donnent sens à toutes nos intuitions. Je ne lis jamais Libération, pour tout un tas de raisons qui n'ont pas grande importance, et que vous partagerez, ou partagez sans doute avec moi. Je ne lis jamais Libération, et cependant cette année, l'été de cette année, j'ai lu Libération. Je partais en voyage, décidé à faire exploser mon quotient carbone. J'ai donc acheté Libération, le Libération du 10 juillet 2013. Je l'ai parcouru rapidement. Décidément, je ne savais pas comment lire ce journal. Je n'y trouvais rien à lire, mais je l'ai posé dans mon sac. Après une sourate dite par le pilote d'avion qui semblait mettre à la contribution pour le décollage, ce qui, je vous l'avoue, ne m'a guère rassuré,
Je dirais même que ça m'a plutôt inquiété. On prête beaucoup de choses à Allah. Mais je n'ai jamais entendu qu'il avait eu son brevet de pilote. Nous décollons donc avec ou sans l'aide d'Allah. Nous nous stabilisons à 40 000 pieds. Nous mangeons et je n'ai pas sommeil. Je regarde ce qu'il y a dans mon sac. La chasse à l'homme, les théories du drone de Chamaillou, soigner les âmes de Bertrand Hell, la propagande du quotidien d'Éric Azan, l'actuel malaise dans la culture de François Richard et géographie de la domination de Gérard Araffé. Mais dans cet avion, je ne tenais pas à me prendre la tête et j'optais donc pour Libération, la partie rebond. Je suppose que c'est une partie proposée à des non-journalistes, une confrontation de points de vue et qui vire là, au télescopage entre deux façons d'appréhender le réel. Une égocentrique, comment faire pour être réélu. L'autre personnelle, intime. Une parole de la souffrance qui ne peut se satisfaire de la trivialité d'un bulletin de vote. Tellement grave et profond l'antagonisme que nous n'entendons qu'une voix. Page 18, avoir les idées claires face au Front National. Et page 19, j'écris d'en bas, de la partie effondrée de l'Espagne. Vous imaginez sans mal ce qui m'a intéressé, surtout qu'une illustration rendait l'article encore plus indispensable. Une femme, rousse, qui s'efface petit à petit. Une clé derrière qui contextualise ce qui a été et n'est plus. Comme cet effacement progressif vers la disparition. Mais allez savoir pourquoi. La bêtise sans doute, ou une certaine perversion d'aller voir qu'au niveau politique rien n'a changé, l'utilisation du même argumentaire, de la même peur, les mêmes instrumentalisations, le même recours obsolète au Front Républicain qui fait que beaucoup votèrent pour Chirac en 2002. J'ai donc lu ce texte de Stéphane Le Foll, ministre de la Forêt, mais qui ne sait sans doute pas que l'arbre cache toujours la forêt, et d'un certain Guillaume Bachelet, secrétaire du Parti Socialiste à la Coordination. Ne me demandez pas ce que c'est, mais à première vue, c'est un poste qui n'est pas très efficace. Au début, je voulais lire ce texte d'un socialisme bontain et culpabilisant qui tendrait à dire que si les gens votent Front National, c'est qu'ils n'en sont pas au courant, ou qu'ils n'ont pas bien compris ce que fait le PS pour nous. Et ils ont oublié les deux compères, amis de l'agriculture, l'affaire Jospin. Je voulais donc lire ce texte et le confronter à celui de Cristina Falieras, sans aucun commentaire. Le recto et le verso de ces pages rebonds de Libération du 18 juillet. Et le choc se suffirait à lui-même. Mais voilà, cet article des deux socialistes en goguette à la recherche d'improbables voix dans le journal de leur électorat est illisible. Non pas que mes larmes aient effacé les caractères plombés, les larmes, c'est l'en bas qui les a provoquées. Alors de cette naissance politique, qui ne veut rien entendre du réel, je n'ai pas à en parler, je ne peux pas, ni ne veux en parler. Vous entendrez ce discours largement durant l'année 2014. J'en décline simplement quelques phrases. Le Front National doit être caractérisé pour ce qu'il est, un parti nationaliste qui exacerbe les peurs et prône l'exclusion. Ah bon ? Le vote républicain doit rester notre mot d'ordre. Ah bon ? Nous devons expliquer que le programme Front National conduirait le pays à la faillite et aggraverait la situation des Français. Ah bon ? Alors, bien sûr, certains fâcheux, qui ne veulent rien comprendre, diront « Mon petit Bernard, le Front National, c'est vilain. » Oui, je sais. C'est vilain. J'ai de plus en plus de mal à classer les vilains. Je me refuse à tout populisme et à tout argumentaire facile. J'aime bien mes voisins. Cette petite vieille courbée à 75 degrés qui va chercher son pain. Ce plombier aux mains rugueuses que je croise les matins où je me lève suffisamment tôt. Celui qui fait le cochon tous les janvier depuis au moins 30 ans. La vieille mamie marocaine à qui je remonte le sac. La jeune punkette avec son chien Hercule, le résident de l'appartement thérapeutique qui s'évertue à essayer de m'intéresser à la météo, et tous les autres. Je ne sais pas ce qu'ils votent. Et je m'en fous. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ne croient plus aux idées claires et à la transparence. Ah bon? Je vais vous laisser avec Christina Faliaras. Vous entendrez où je veux en venir. Ou peut-être que je veux en venir à rien. Je ne suis pas en train de faire campagne, je veux juste montrer l'impasse, l'impuissance politique dans laquelle nous sommes plongés, qu'il nous faut contourner, dépasser. Mais avant toute chose, que le discours politique est tout sauf politique. Christina Faliaras, j'écris d'en bas, de la partie effondrée de l'Espagne, celle que les économistes ne veulent pas voir ni entendre, eux qui vantent la reprise espagnole et toutes ces fadaises que ne manquent jamais de raconter quelques experts éclairés, à qui il faudrait sans doute changer les piles. J'écris d'en bas, de la partie effondrée de l'Espagne. En 2008, enceinte de 8 mois, l'écrivaine espagnole Christina Faliaras a été licenciée par le journal où elle travaillait, comme sous-directrice. C'était le début du commencement de la débâcle d'Ambouré et une grande partie de ses concitoyens. En novembre 2012, Christina a reçu une lettre de la banque pour cause de non-paiement. Celle-ci a démarré une procédure d'expulsion. La lauréate du prix Amet 2012, du meilleur roman policier en langue espagnole, décrit ici cette chute. « Racontez-nous sauf », dit-elle. Et elle détaille l'angoisse de ceux qui sont broyés par le système. Après avoir dû rendre les clés de son appartement le 25 juin, elle est aujourd'hui provisoirement hébergée chez un ami. m'appelle Cristina Faliaras. Et je suis devenu l'expulsé la plus médiatisée d'Espagne. J'aurais préféré parler d'autre chose, mais l'époque et le pays imposent ce genre de sujet. Le mardi 13 novembre de l'an dernier, à 19h40, quelques heures avant le début de la deuxième grève générale de l'année en Espagne, un individu de la 20e chambre de Barcelone a sonné à la porte de mon appartement, de la place Universade. On entendait déjà les hélicoptères de la police et les pétards des premiers piquets de grève qui mettaient toujours chez nous un petit air de fête. À l'instant précis où mon fils Lucas a ouvert la porte et dit « Maman, c'est un monsieur », j'ai cessé, je ne sais pas encore pour combien de temps, d'être écrivaine, journaliste et éditrice. Pour devenir une expulsée qui pouvait témoigner par écrit et argumenter devant une caméra. Un récit en direct à la première personne. C'est pratique et ça fait mouche. La sainte trinité du journalisme. Objet, sujet et analyse. Trois en une.
We don't go outside anymore. Inside of this light. All the harrows pull up miles of stone. We never thought that it would all go wrong. The king of my decisions, I have not been crowned. Inside of the ocean.
Maintenant, lecteur, imaginez un terrain, aussi grand qu'un pays, une surface, genre pampa. Arrêtez tout et allez-y. Imaginez. Imaginez. On y est ? Bon, alors regardez cette crevasse énorme, implacable et brutale. Comme creusée par l'ongle d'un dieu déchirant la terre. Elle coupe cette surface en deux. De la crevasse émane une haleine glacée, celle des parcs. Regardez encore. Non moins soudainement, une de ces deux parties, décrétons pour des raisons sentimentales qu'il s'agit de la partie gauche, une de ces deux parties donc s'effondre dans l'abîme et s'immobilise, suspendue dans le noir. Entraînant tous ses habitants dans sa chute, stupéfaits, ahuris et rongés par la culpabilité. L'autre partie de cette terre que vous avez imaginée et que nous appellerons Espagne est restée en haut, craignant d'encourir le même sort, l'attendant même, mais sous une forme moins grave. Coupe claire dans les domaines de la santé, de l'aide sociale, des droits récemment acquis par les femmes, baisse de salaire. Leur mécontentement est compréhensible. Mais, en moins de temps qu'un ami le pays a déclaré que sa démocratie était aussi indestructible que frimeuse, les habitants du bloc effondré se sont vus privés de tout. Pour les rognures dont on a privé ceux d'en haut, ils donneraient volontiers santé et avenir.
Thank you.
J'écris d'en bas, de la moitié effondrée. Il y a tellement longtemps que je vis dans le noir que mes yeux se sont habitués à cette obscurité. Et je distingue nettement les nouveaux arrivants. En 2009 et 2010, 2 millions de travailleurs ont rejoint les rangs des chômeurs. Ceux-ci ne touchent plus rien, l'allocation n'étant accordée que pour 2 ans en Espagne. Et depuis 2011, des centaines de milliers de licenciés nous rejoignent. Nous les voyons tomber. Nous leur faisons de la place. Nous savons, eux comme nous, que c'est inévitable. D'ici, on distingue à peine ceux qui sont restés en haut. Il faut faire un effort de mémoire. Nous savons comment ils vivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent, comment ils s'habillent et se déplacent. Parce que nous y étions encore, il y a peu. Mais la misère impose ses oublis et je crois que cela nous sauve un peu. Ceux d'en haut, en revanche, ne nous regardent pas. Ils ne le peuvent pas. Il reste les journalistes, les informateurs qui essaient en vain de raconter la pauvreté, les expulsions, le pourquoi de ce suicide. Comment le pourrait-il? Si on vous a jamais coupé l'électricité, l'eau ou les deux, votre idée de la misère, c'est du toc. Voilà pourquoi je peux vous être utile aujourd'hui. C'est l'expulsé qui raconte. Bien sûr, je suis étonné d'être en bas. Une expulsion est une procédure très longue, qui commence par un licenciement, mais qui vous prend de court, comme si vous vous retrouviez tout nu. Tout nu, au cœur de cette grande avenue, qu'on parcourait à l'aube en taxi, écroulé de rire, éméché. Tous les jours, vers 6 heures du matin, la radio de ma table de chevet s'allume, et une expression me balance un coup de poing et me propulse sous la douche, gagner sa vie. La vie, tu ne l'as pas. En effet, tu dois la gagner. Et si tu ne gagnes pas ta vie, tu la perds. Et tous les jours, ça me cueille par surprise, toute nue. J'avais écrit « Cela peut arriver à n'importe qui ». J'avais écrit « Mes enfants vivent sous le seuil de pauvreté ». Et le 25 janvier 2012, dans le journal El Mundo, j'avais aussi écrit « Je suis allouée ». Femme, caucasienne, de 43 ans, journaliste, écrivaine et éditrice. Taille 1m69, 60 kg, rousse décolorée, yeux bleus. Études universitaires, 25 ans de carrière journalistique et d'expérience professionnelle dans 4 journaux espagnols, 4 chaînes de radio et 3 de télévision. 6 livres publiés, dont 4 romans. 3 ont été primés. Expérience dans l'organisation de rédaction, d'équipe de travail, de campagne de communication, de création de pages web, de préparation du pot-au-feu madrilène et de lecture de Gilles de Biedna. Capacité pour écrire, disserter sur la littérature, la politique, l'économie, la cuisine, le sexe, la violence, l'édition, la famille et ses difficultés, le chômage, le crime, le syndicalisme et les peines au sens large. Elle est allouée pour penser, s'occuper d'une maison, même si cette mission inclut la récolte des choux, écrire toutes sortes de textes, fiction ou pas, correspondance comprise, mission qui implique que je renonce à la signature si on l'exige. Sortir les animaux ou les personnes, de préférence les personnes. Ce service inclut la conversation. Préparer des actions d'obéissance ou de désobéissance publique ou privée. Tout service qui vous intéresse et qui ne figure pas dans cette liste sera étudié avec bienveillance. Tarifs à négocier. S'y intéresser, s'adresser à christinaalquila@gmail.com. Pour coït, fellation, striptease ou assimiler, s'abstenir. La plupart des réponses, en dépit de mes injonctions, étaient des demandes de services sexuels, parfois très imaginatifs. Mais presque personne n'a pris ma proposition au sérieux. Pourtant, elle était vraie comme tout ce que j'écris et publie dans le journal. Elle était vraie comme le courant coupé un mois plus tard. Aussi vraie que les pièces de monnaie comptées pour acheter le lait du petit-déjeuner. Mais ce genre de choses, il faut les avoir vécues pour les comprendre, pour en être conscient. Moi, je croyais être consciente. Et pourtant, la vie d'expulsion que m'a remis ce type m'a fait l'effet d'un bloc de glace, qui a activé un ressort en moi et m'a mobilisé. Nu et terrifié, mais il faut énoncer. Énoncer la peur, formuler l'angoisse, raconter la culpabilité. Je m'appelle Cristina Faliaras. L'expulsé qui raconte. Et, exactement 4 ans avant ma décision de raconter, par un matin tiède de novembre, à 10h, précisément le lundi 17 novembre 2008, le directeur du journal dont j'étais sous-directrice m'a licencié. Enceinte de 8 mois, à ce moment-là, l'Espagne avait 2 500 000 chômeurs. Nous trouvions que c'était une horreur, quelle dérision. Et les augures les plus perspicaces prédisaient que cette crise larvée se prolongerait jusqu'en 2010, peut-être jusqu'au début 2011. Allons donc, répondions-nous en chœur. Une crise ne peut pas durer aussi longtemps. Le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero parlait de premier bourgeon qu'on avait touché le fond et que tout allait bientôt refleurir. Peu après, le socialiste injecterait des milliards d'euros dans les banques espagnoles, de l'argent public. C'est par là qu'a commencé mon expulsion, par mon licenciement. Dans le courant du mois de novembre dernier, El País a licencié 129 journalistes. Je me rappelle avoir pensé, chair à expulsion. Allons, descendez, il y a de la place. En tant que vétéran, je sais quelles sont les étapes à venir. À savoir, première étape, j'ai de la valeur. Je suis une grande professionnelle, j'ai mes indemnités, une jolie somme et mes allocations de chômage, au moins 1 an et demi. Je prends 2 mois pour souffler et avaler la couleuvre. La première étape dure 1 an. Deuxième étape, j'arrive en fin de droit. Nous n'aurions pas dû faire ce voyage. Nous allons gagner sur la nourriture, les vêtements, priorité aux enfants qui ne s'aperçoivent de rien. Je dois monter quelque chose, un cabinet de consultation, une petite entreprise, une agence de communication. Je vais investir sur ce qui reste de mes indemnités pour assurer l'avenir de ma famille. Salopard de politicien. La deuxième étape couvre toute la deuxième année. Troisième étape. Les enfants, pas de vacances cette année. Chérie, on liquide la voiture. Ah merde, l'argent du chômage n'a pas duré longtemps. Désormais, uniquement les marques les moins chères et le riz à volonté pour les adultes, mais pas de vêtements. La petite entreprise n'a encore rien donné. Comment pourrait-elle être rentable en quelques mois? Et si je n'étais pas une si bonne professionnelle? Et pourquoi mon compagnon ne trouve-t-il pas de boulot? Il se laisse aller peut-être. J'ai besoin de cacher. Si je croise un politicien dans la rue, je lui casse la gueule. Ou alors c'est l'employé de ma banque qui écopera. Si on m'appelle encore pour le retard du loyer, j'explose. Il me faut des cachets. La troisième étape couvre les deux premiers tiers de la troisième année. Quatrième étape. J'ai besoin de cachets plus costauds. Des mois de retard pour payer le loyer, l'eau, le gaz. La banque ne répond plus. Chérie, la viande, c'est pour les enfants. On dirait que je vieillis plus vite que l'éclair. Plus personne ne m'appelle. Je descends au supermarché, toi, occupe la caissière pendant que je cache le dentifrice et les lames de rasoir sous ma veste. La quatrième étape s'achève par l'expulsion. Ce qui restera de vous relève désormais de la statistique. Revenons sur cet instant où tout a basculé. Maman, c'est un monsieur. Pendant que les hélicoptères ajoutent leur bande-son à la grève générale imminente, que je pose les paperasses du tribunal sur une table et m'apprête à écrire un article pour le site d'El Mundo, faut raconter. Énoncer est une nécessité. Énoncer nous sauve. Mon blog, dont cet article a occupé la page d'accueil pendant trop longtemps, toute la journée. Il s'intitulait « Mon expulsion est arrivée ». Le matin, quand je travaille seul à la maison, je n'ouvre pas la porte. Les portes du matin ouvrent toujours sur de mauvaises nouvelles. Mais les portes de 19h40 amènent en général des amis ou un voisin. Quand je me retrouve face au type sur le palier, je sais ce qu'il amène. Je vous apporte une notification du tribunal. Sous son bras droit, une IA s'épaisse, sa main gauche me tend un papier. C'est l'ordre d'expulsion. Je l'attends depuis un certain temps, depuis que la banque m'a dit que si je voulais savoir où en était mon crédit, je n'avais qu'à contacter les services juridiques. Quand on entend la banque parler de services juridiques, on sait que l'affaire a été transmise à un secteur où les termes sont différents. C'est une sensation qui rappelle celle des adolescents quand ils sont confrontés aux affaires des grands. Ils devront les vivre, ils les entendent, mais l'essentiel leur échappe. C'est l'ordre d'expulsion ? Plus ou moins, hésite le type. Vous devez vous présenter au tribunal et signer ça. Et si je ne signe pas, ça reviendra au même. On entend les premiers pétards qui chauffent une grève générale qu'un esprit éclairé a qualifiée de grève politique, comme s'il pouvait en être autrement. Les enfants enfilés au salon. Je signe tout et je m'empare de l'alias. Tribunal de première instance, numéro 4, Barcelone 111, Gran Via de las Cortes Catalanes. Procédure d'exécution de la garantie hypothécaire XXX 2012, section 2C. Partie requérante, Banco Bilbao, Vixaya Argentaria. Procureur Irene Sola Solé. Partie débitrice, Cristina Faliaras Sanchez. Les noms du requérant et de la procureure sont écrits en majuscules, le mien en minuscules. Soudain, Facebook et Twitter sont pris de folie, les radios et les télévisions aussi, et tout le monde me cherche. Le téléphone sonne, c'est le producteur d'une émission du soir. un maximum d'audience. Salut Christina, nous avons lu ton histoire et nous voudrions t'inviter à l'émission au débat. Je suis justement à Madrid pour participer au festival Enye de littérature. Il faudrait que tu sois au studio à 8h du soir. C'est impossible. Je finis ma table ronde à cette heure-là. En réalité, tout est difficile, car en plus, je n'ai pas de billet. Peu importe, on t'envoie un taxi, on te paye une nuit d'hôtel, je t'expédie un billet. J'arrive dans les studios de la chaîne privée, on me fait asseoir avec deux couples. Le plus âgé a 70 ans. Elle s'inquiète pour sa coiffure et lisse sa robe d'un geste nerveux. Elle est de l'autre côté de l'écran, devant lequel elle passe des heures et des heures d'une retraite qu'elle avait imaginée paisible. Son mari, un homme qui, malgré son embonpoint imposant et son teint rougeau de mâle rural incrusté dans la ville, n'existe plus. Par la suite, je verrai une larme discrète couler sur sa joue. Du côté du couple plus jeune, l'homme a la quarantaine depuis un bout de temps. La femme doit avoir 50 moins. Sur le visage, l'émotion de se retrouver dans un studio de télévision, un lieu presque divin, se mêle à leur air ébahi. « Nous sommes expulsés », m'explique l'homme avec son accent andalou. « D'abord, on nous a expulsés de chez nous, et maintenant on va expulser mes parents parce qu'ils étaient les garants de l'achat de notre appartement. » D'un mouvement de menton, il montre le père, leur appartement où ils ont vécu toute leur vie. On se retrouve tous les quatre à la rue, avec les petits. La seule chose qui nous reste, c'est ça, passer à la télévision. J'ai un choc à l'estomac et un choc à la tête qui déborde dans les yeux. Soudain, je ne sais plus ce que je fais là, avec ces quatre personnes dont le malheur me semble tellement étranger. La seule chose qui nous reste, c'est ça. Comment expliquer que nous ne sommes pas du tout embarqués dans le même bateau? Comment expliquer cette envie nauséeuse de m'enfuir, d'appeler un taxi, de rentrer chez moi? Je cherche désespérément une hôtesse de l'émission. J'ai besoin de savoir qu'on ne va pas m'asseoir sur le sol du précipice absolu, au bord duquel pendent les jambes de ces personnes qui me regardent en se demandant pourquoi je suis venu. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment compris ce que j'étais. Et le doute me prend. Serais-je une expulsée? Serais-je au nombre de ces centaines de milliers de personnes qui n'ont plus rien? Est-ce la raison qui m'a amené jusqu'à cette banlieue madrilène? Excusez-moi, mademoiselle. Pouvez-vous me dire ce que je suis venu faire ici? Dis-je à l'hôtesse. Dans ma voix, un brin d'irritation mal contenue, la jeune fille me regarde avec étonnement. « Mais, participez au débat. Vous prendrez place à côté d'un tel et d'un tel qui expriment leur opinion et... » Je me méprise de me détendre. Je me battrai, mais je me détends. Je suis une expulsée comme tant d'autres. Mais je peux encore raconter, et cela me sauve. Et après, quelquefois, je vomis. Je me méprise de me détendre. Je me battrai, mais je me détends. Je suis une expulsée comme tant d'autres. Mais je peux encore raconter, et cela me sauve. Et après, quelquefois, je vomis.
Keep appearing in my ears. viento del sur suena como carne.
Oh.
me battrai. Je suis une expulsée comme tant d'autres. Mais je peux encore raconter. Et cela me sauve. Et après, quelquefois, je vomis.